Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Bien, bonjour, bonjour les amis. Comme chaque semaine, en fait, j'ai la joie, et vous avez la joie d'ailleurs aussi. Nous avons la joie de nous retrouver et de retrouver en même temps Sainte Mariam Bawardi, qui est une sainte qui m'amène moi-même d'ailleurs vers la conversion, en fait, pour vous dire les choses comme elles sont. Donc ça donne un vrai plaisir. Donc la dernière fois, nous nous étions quittés sur la Vierge Marie qui avait recueilli Sainte Mariam Bawardi. Alors là, c'est un phénomène extraordinaire. Alors je vous invite, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire ou si vous découvrez cette chronique, à aller sur le site de Présence. Et là, vous trouverez, il y a des rubriques. Alors, il y a foi. En cliquant sur foi, vous arriverez à un moment donné à Récit de vie de saint. Et là, vous avez des podcasts hein, où sont enregistrées les émissions, ce qui vous permet de réécouter les émissions et d'écouter l'émission précédente si vous l'avez loupée, ce qui peut arriver. Parce que comme ça se suit, forcément, on peut louper un épisode, mais c'est vrai qu'on comprend mieux si on a tous les épisodes. Après, bon, si vous en loupez et que vous n'allez pas réécouter, c'est pas dramatique non plus. Il vaut mieux un peu que pas du tout. Voilà. Mais enfin, bon, si on peut avoir tout, c'est encore mieux hein, qu'un peu. Mais enfin, bon, passons. Donc voilà. Donc nous étions quittés donc sur ce moment. Et on peut se demander, en fait, quelle garantie on a que ce merveilleux est réel hein. D'autant qu'avec Sainte Mariam Bawardi, bon, il y aura beaucoup de témoignages pour montrer les cas de transverbération, les cas de bilocation, hein, c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits à la fois. C'est arrivé aussi à Mary von Némée de Malétroit, il y a d'autres. Les cas de lévitation, de la lévitation. Elle fera des lévitations très 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 hautes, hein, à plus de 20 mètres. Donc il y a des témoignages et tout cela. Mais là, pour le moment où elle a été recueillie dans la grotte et soignée par la Vierge Marie, quelle preuve on a que c'est vrai? Parce que voilà, hein, quelle garantie on a? Alors, c'est sûr qu'en fait, on n'a qu'un seul témoignage, c'est le sien. Hein, voilà. Alors, évidemment, hein, le meurtrier, hein, il ne s'est jamais fait connaître. Hein, ça, c'est sûr, celui qui a tranché le cou, hein, il ne s'est jamais fait connaître, évidemment. Bon, la religieuse qui s'est occupée d'elle, elle n'a jamais fait connaître son identité, elle ne lui a jamais dit « je suis la Vierge Marie ». Ça, c'est quelque chose que Sainte Mariam Bawardi expliquera. Au Père Estrate, quand elle est sur le bateau qui va la mener en Palestine, où elle va fonder le Carmel de Nazareth. Hein. Voilà. Et les parents, l'oncle, hein, je dis les parents, pas au sens de papa et la maman, mais au sens membres de la famille, hein, qui l'ont recueillie au moment où elle a perdu ses parents, qui se sont occupés d'elle jusqu'à l'âge de 13 ans, où elle est partie pour éviter ce mariage forcé. Hein. Bon, ben, ils ignoraient tout de ce meurtre, mais ils n'ont jamais rien signalé du fait qu'elle s'était enfuie parce que il aurait fallu avouer les mauvais traitements qu'elle avait subis, ou bien il aurait fallu reconnaître qu'on était parents d'une fille dont on ne sait pas si elle n'avait pas mené une vie un peu désordonnée, un peu que ce soit du déshonneur pour la famille, on ne sait pas. Donc ils n'ont pas fait trop de publicité sur tout cela. Donc en fait voilà, il reste le témoignage de Mariam. Mais ce témoignage de Mariam, hein, il est confirmé, on peut le dire, il est confirmé par le sérieux, par la sincérité, par l'humilité de toute sa vie, comme l'attestent les témoins. C'est-à-dire que sa vie, elle est tout à fait conforme à ce qu'elle dit. Et alors il y a plusieurs détails qui plus tard seront confirmés. Alors, par exemple, par son frère Boulos, hein, qui a effectivement reçu la fameuse lettre de sa sœur. Hein, il a répondu en faisant le voyage jusqu'à Alexandrie. Mais comme il n'a pas retrouvé sa sœur chez l'oncle, ben, il est reparti en Galilée. Bon. Et il reste tout de même un fait irrécusable. la cicatrice du cou. Cette cicatrice, elle sera constatée hein, au cours des nombreuses maladies de Mariam par des médecins et des infirmières, tant à Marseille qu'à Pau, qu'à Mangalore et enfin à Bethléem. Cette cicatrice, elle mesurait 10 cm de long sur 1 cm de large. Elle marquait tout le devant du cou. La peau y était plus fine et plus blanche qu'ailleurs sur le cou. Il manquait plusieurs anneaux de la trachée artère, comme le constatera un médecin de Pau le 24 juin 1875. Et la maîtresse des novices écrira, un célèbre docteur de Marseille qui l'avait soigné avait confessé, quoique ce fût un athée, qu'il devait y avoir un dieu, car naturellement, elle ne pouvait pas vivre. Alors, à la suite de cet entaille profond, Mariam gardera une voix brisée, hein, et ce qui... voilà, son martyr, si vous voulez, il n'a pas été un rêve, il a été inscrit dans sa chair. Et cette voix brisée, alors ça c'est un fait extraordinaire, cette voix brisée, eh bien, elle l'a, c'est l'un des charismes qu'elle aura, elle la perdra chaque fois qu'elle dira, sous l'inspiration, un poème à Dieu, au Saint-Esprit. Alors il faut savoir que dans la tradition melkite, il y a beaucoup d'invocations au Saint-Esprit. Hein? Donc elle a été nourrie de cela. Et on y reviendra. Là, je présente un petit peu, je dirais, dans un certain désordre, parce qu'il y a des choses que je veux rattraper, que je n'avais pas dit au début, parce que je les ignorais. Donc voilà, je rattrape un peu tout cela. Et après, ça va continuer par ordre chronologique, si vous voulez, hein, puisque c'est une biographie. Hein. Mais voilà, c'est bon de savoir ces faits. Alors, justement, quand je parlais de rattraper des choses, hein, Mariam, parce qu'elle a toujours eu une relation spéciale avec la Vierge, parce que ses parents, qui donc avaient perdu leurs 12 premiers enfants, hein, tout petits, eh bien, c'est à la Vierge Marie qu'ils vont demander d'avoir un enfant à qui qu'ils lui consacreront en lui donnant son nom. Hein? Et donc, il y aura toujours cette relation. Le Saint-Esprit sera pour Mariam un petit peu une maman. Hein? Elle dira souvent « Saint-Esprit, ma mère hein? ». Voilà. Et la Vierge Marie, qui est aussi la mère, elle aura une relation particulière hein, avec Mariam, puisqu'on se souvient que la nuit où Mariam voulait éviter ce mariage forcé, elle priera la Sainte Vierge, qui lui dira qu'elle lui donnera l'inspiration nécessaire au moment opportun, ce qu'elle fera et qui évitera à Mariam de subir ce mariage forcé. Hein? Eh bien, tous les samedis, dès l'âge de 5 ans, Mariam jeûnera, elle ne mangera que le soir, mais le reste de la journée, elle jeûnera et elle le cachera à tout le monde. Hein? Elle trouvera toujours un moyen de ne pas mettre ce jeûne en valeur. Et alors, hein, régulièrement, au printemps, hein, elle cueille des fleurs pour les déposer devant l'icône de la Vierge. Hein. Elle choisit les plus belles, les plus parfumées, celle-là, elle va bien, elle embellira, elle décorera bien et tout ça. Et elle la dépose amoureusement avec le sourire, avec la joie dans le cœur, avec les yeux admiratifs devant la Vierge. Elle dépose ses fleurs devant l'icône de la Vierge. Et un jour, quelle est la surprise, elle a ? Elle vient s'agenouiller et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit que les fleurs coupées ont pris racine dans le vase. Oh, ça c'est incroyable ça ! C'est incroyable. Alors, elle alerte son oncle, l'oncle alerte le curé, on allume un cierge devant les fleurs, hein, c'est un miracle ! Mais alors le curé, hein, il craint un peu pour l'humilité de Mariam, parce que bon... oui, quand même, hein, bon, ça peut se comprendre, hein, y a de quoi. Alors, comme il craint pour son humilité, il la gronde comme si ses péchés étaient responsables de ce phénomène. Alors, Mariam, elle tombe à genoux, elle s'humilie, elle demande pardon et tout cela. Hein, voilà, parce que, on sait que les méfaits possibles de l'orgueil. Et puisque nous en sommes au samedi, hein, et bien après cette chronique, nous pourrons reprendre dans l'ordre chronologique. Ouf, je suis content, et vous aussi, hein, puisque nous en sommes au samedi. Tous les samedis, Mariam, elle se confesse. Et après s'être confessée, elle demande au prêtre si elle pourra, communier. Et le prêtre lui dit, je le veux bien, mais pas tout de suite, mais plus tard. Et un jour, elle lui demande, parce que tous les samedis, elle lui demande, est-ce que je peux communier ? Je le veux bien, mais plus tard. Et un jour, il lui dit, je le veux bien, et il oublie de dire, mais plus tard. Donc, le samedi suivant, Mariam, elle va communier. Et le samedi encore suivant, après s'être confessée, elle redemande au prêtre, voilà, et elle lui dit, ben oui, mais de toute façon, j'ai communié la semaine dernière, et comment ça se fait ? Parce que vous m'avez dit, je le veux bien, vous m'avez pas dit, mais plus tard, alors... Et alors le prêtre, comme il se rend compte d'une part de sa distraction et d'autre part à quel point pour Mariam c'est important de pouvoir communier. Alors il lui dit, d'accord, tu peux communier, mais discrètement, tu vois, tu n'en parles pas, quoi, tu n'en parles pas. Et alors voilà. Et alors suivant le rite melkite, Mariam, elle s'avance, hein, et le prêtre qui tient le calice, eh bien lui tend la petite cuillère où se trouve le corps et le sang du Christ. Et voilà. Et Mariam communie. Et d'ailleurs plus tard au Carmel, hein, en devançant en cela les demandes du pape Saint Pie X. Elle encouragera les religieuses à prier fréquemment, voire même quotidiennement. Voilà. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous reprenons la chronique dans l'ordre chronologique. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bel été. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.